Dan Gagnon pour le podcast Tout Seul, c'est le numéro 42, ça fait un mois et demi, je crois, que j'ai pas fait de podcast. Et j'avais envie de vous raconter pourquoi. Ceux qui suivent, encore une fois, au même rythme où je fais les podcasts, on est maintenant quasi à la fin du mois de juillet. Et quand tu fais le métier que je fais, c'est-à-dire que j'écris des blagues pour les autres principalement, je fais des podcasts, les saisons se calculent un peu comme l'école, c'est-à-dire que ça se termine en juin. Et moi, j'avais un plan. J'avais un plan fantastique qui avait été créé avec Madame Chou, mon épouse, un peu avant Noël, si ma mémoire est bonne. On s'était dit, tu sais quoi, cet été, on va profiter. Moi, j'ai fait une bonne année. Je vais m'octroyer 2 mois de congé. Ça, c'est un investissement. C'est une décision. Et dans ces 2 mois de congé, un des mois, je vais le consacrer à l'écriture, c'est-à-dire qu'en théorie, je vais avoir un seul mois de congé, disons, je vais avoir un mois de congé de mes clients, et j'avais discuté avec elle, j'avais dit, est-ce que tu es d'accord pour t'occuper de notre jeune enfant pendant un mois, et ce mois-là, je le consacrerai à écrire. Elle me dit, oui, pourquoi pas. Mais j'ai un deal pour toi, j'ai envie de vivre, j'ai 37 ans, j'ai envie de vivre le fantasme absolu de quiconque a déjà couché plus qu'un mot sur le papier dans le but d'en faire une fiction, un essai ou quoi que ce soit. J'aimerais ça faire une résidence d'écriture. Et je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour qu'on ait passé un mois en Toscane? Un mois en Toscane, dans une villa, avec piscine, c'est, je crois, à part ma maison, la plus grosse dépense que j'aurais faite de ma vie. Elle me dit, pas de problème, on réserve et on commence à rêver. Moi, la façon dont je fonctionne quand j'ai un nouveau projet, un truc comme ça, en général, c'est que j'imprime une ou deux photos et je la mets devant mon ordinateur. Et comme ça, chaque fois que je travaille, je sais pourquoi je travaille, et j'ai toujours beaucoup plus cru en la carotte qu'au bâton. Je pense que tu vas plus vite quand tu es à la poursuite de quelque chose que quand tu fuis quelque chose. Tu n'es pas plus vite, c'est pas vrai, mais tu as plus de souffle, tu as plus de stamina, comme ils disent en anglais. Je crois que tu es capable de courir plus longtemps. Et évidemment, avec le coronavirus, on a dû annuler quelque part autour du mois de mars. On se dit, c'est pas grave, on va changer nos plans, on va faire ça autrement. On a la chance d'avoir une belle maison, j'habite, je crois que j'en ai déjà parlé 1 million de fois certainement, mais je suis super content de cet endroit, dans un genre de boisé, près d'une montagne. Il y a tout ce qu'il faut, le terrain est grand, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour pouvoir profiter des saisons, peu importe quelle saison. Il s'agit d'ailleurs. On se dit, tu sais quoi? C'est rare que tu aies l'occasion d'avoir 2 mois de vacances dans une vie. On a encore une fois un jeune enfant de plus ou moins 1 an. Faisons de cet été quelque chose de rare et d'exceptionnel. Nous allons passer un été à trois ensemble. L'enfant est tout jeune, donc il dort encore 12, 13, 14 heures par jour. Ça me laissera tout ce temps-là pour dormir et faire différents projets, continuer d'écrire malgré tout. Et j'imagine que je ne suis pas le seul. Parfois, tu te fais un super plan dans la vie. Vraiment, tout est magnifique, tout est parfait, tout est orchestré au poil de cul, pour citer Kaamelott. Et puis, tout à coup, la vie arrive un peu dans ton côté, comme ça, dans ton angle mort, et te frappe absolument sans merci, et dit comme, j'en ai rien à foutre de tes projets. Et je tiens à préciser, je veux dire, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, ce que moi, slash nous, on a vécu, n'est absolument pas grave. Mais c'est justement de ça dont j'avais envie de parler, un concept que je vais appeler la souffrance ordinaire. Et pour aller un peu plus loin, le déni de souffrance ordinaire. Tu sais, si tu as un job qui t'oblige à te lever tous les matins à 6 heures, et que tu racontes aux gens au bout d'un an et demi que tu es fatigué de te lever tous les matins à 6 heures parce qu'il y a des conséquences. Tu te lèves à 6 heures la semaine, mais c'est fini les grasses mats le week-end. C'est fini parce que ton corps finit par s'habituer. Moi, j'ai fait des petits matins en radio où je devais me lever à 4 heures du matin et je ne suis plus capable. Ça m'est jamais arrivé dans les 10 dernières années de me réveiller après 7h, 7h30. Parfois, j'arrive à m'endormir une fois sur fucking 10, mais une fois que tu as brisé une partie de ton corps, c'est brisé. Il y a des choses que tu peux faire, évidemment, quoi que ce soit, mais voilà. Mais si tu essaies de dire aux gens que c'est difficile parce que ton job fait en sorte que tu dois te lever tous les matins à 6 heures, il y a différents types de réactions, forcément. Il y en a qui vont dire « Ah, pauvre toi, est-ce que je peux faire quelque chose? » Très gentil. Beaucoup vont dire « Ouais, mais tu finis plus tôt. » Ce qui n'a, au final, rien à voir avec ce que tu es en train de dire. C'est comme de dire « Ah, je suis allergique au brocoli. » Puis on dit « Ah, mais t'es pas allergique au chocolat. » C'est vrai, mais ce que tu viens de dire n'a ni importance, ni intérêt. Et c'est plus ou moins, moi, ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est « Je m'en bats les couilles de ce que tu dis. » Et il y a tous les autres, toutes les autres personnes qui vont dire « Ah oui, moi, je me lève à 5h30. » Oui, mais le fait que pour moi, ça soit difficile de me lever à 6h n'a aucune influence, aucune corrélation, aucun lien avec l'heure à laquelle toi, tu te lèves. On n'était pas en train de parler de toi. D'un côté, vous allez me dire « Ouais, le borgne qui se plaint d'avoir qu'un œil à un aveugle, c'est bof. » Je n'ai aucune réponse, rien à ça. Et la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est simplement pour parler de mon enfant quelques secondes, qui au moment où j'enregistre le podcast, il est chez mes parents. Il est chez mes parents pour quelques jours. Madame Chou, mon épouse, est chez mes parents aussi pour quelques jours. Après que moi, j'ai fait la même chose à l'inverse. Et il y a quelque chose, en anglais, c'est humbling, donc c'est en gros humiliant, mais dans le sens de rend humble, dans le fait de te rendre compte qu'une expérience que tu traverses, qui est commune à la majorité de l'espèce humaine, est très difficile pour toi, et il y a une espèce de honte trop souvent qui est associé au fait de trouver quelque chose difficile quand beaucoup de personnes ont eu à traverser l'épreuve. Et si je parle de ça, c'est que j'étais marqué il y a quelques années, ça s'est terminé avec la personne avec qui j'étais. J'étais complètement dévasté. Mais genre, je sais que chacun vit les ruptures, les séparations de façon différente. Moi, en général, je n'arrive plus ni à dormir, ni à manger, ce qui rend la possibilité de bien-être pas terrible. Et j'ai toujours conscience du temps. C'est assez désagréable. D'ailleurs, quand tu regardes un film, j'ai conscience d'environ, maximum, je passe 5 minutes sans avoir conscience de l'heure qu'il est. Mais quand je suis très triste ou très touché ou très atteint, j'ai conscience de chaque fucking seconde qui passe. Et je me remets à penser à toutes les fois où j'étais en soirée, je regardais un film, j'étais avec des amis, et j'ai pu avoir justement 5 minutes qui soient passées sans que ça soit une torture au final. Et sans vouloir faire de la poésie de comptoir cheap, là. Cette façon qu'a le temps de s'accélérer quand t'es heureux et de se ralentir quand t'es triste a quelque chose de très cruel, déjà je trouve, en commençant. Et à l'époque, j'avais la chance de vivre avec mon frère en Europe. J'avais un late show. Mon frère était le scénariste en chef. C'est déjà une période assez surréaliste et fantastique de ma vie où, à l'âge adulte, j'ai pu travailler avec mon frère alors que j'étais à 6000 km de chez moi. Et voilà, donc c'était assez particulier. Mon frère est quelqu'un que je respecte énormément et quelqu'un de brillant, de sensible, d'humain et qui est doté d'une générosité humaine. C'est-à-dire, s'il voit quelqu'un qui a besoin, il est capable de faire le calcul dans sa tête du ratio de ce que ça me demande versus l'importance que ça a pour l'autre personne. Donc, j'ai vraiment pas envie de faire ça, mais l'autre personne, ça va l'empêcher de souffrir un peu. Il fait la conversion comme automatique dans sa tête. Enfin, bref, c'est non seulement quelqu'un que j'admire, mais quelqu'un qui me sert de modèle et de qui j'essaie d'apprendre. Et donc, quand ça se termine, je suis dévasté. On est dans le même appartement à ce moment-là. Et il y a un constat qui me frappe. Désolé, pendant que je parlais, je suis assis à côté de mes deux chiens. Et j'ai un chien qui mue deux fois par année. Ça dure environ 5 mois à chaque fois. Et parfois, quand je parle, j'agite les bras. Et en agitant les bras, ça fait relever les poils. Et de temps en temps, pendant que je parle, il y a un poil de chien qui vient se loger quelque part dans ma bouche. Donc voilà, désolé pour ça. J'essayais de faire une grande envolée. C'est un échec phénoménal. Et donc voilà, je dis à mon frère, parce que ça me frappe à ce moment-là, je dis c'est fou parce que je suis détruit. Mais je me rends compte que j'ai pas vraiment le droit de me plaindre parce que ce que je vis est au final tellement commun que ça en est presque banal. Et je me souviens, mon frère a fait une mini-pause, m'a regardé, a répondu, il dit « Plutôt que de te dire que t'as pas le droit de te plaindre ou de minimiser ta propre souffrance, tu devrais peut-être en profiter pour, au contraire, augmenter ton empathie avec la souffrance des autres puisque celle que tu ressens est apparemment commune. » J'avais absolument rien à répondre. Et ça, cette phrase-là, je me la répète tellement souvent. Dès que je vis un petit quelque chose que je trouve difficile, je me dis « Ah! » Soit je me dis « Je suis une merde, je me flagelle, j'aide absolument pas ma situation » ou j'en profite pour augmenter mon empathie envers le reste du monde, ma capacité de compréhension. Je veux dire, tu crois que les êtres humains, une des plus belles façons de connecter, c'est d'avoir la capacité de comprendre la souffrance de l'autre, la respecter, savoir si tu peux aider, savoir quand tu ne peux pas aider et pas t'enfuir juste parce que le fait de ne pas pouvoir aider quand tu vois quelqu'un souffrir en face de toi est tellement difficile que tu préfères fuir. Il y a énormément de gens dans mon entourage que je respecte parce qu'ils ont la capacité de rester devant moi quand ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Qui me voient souffrir, ça leur déplaît forcément. Mais ils restent là quand même au cas où, à un moment, ils puissent faire quelque chose. Tu fais « Wow! » Chaque fois que je vois ça, je me dis, en tant que moi, je suis homme blanc, cis, hétéro, 37 ans, ce qu'on m'a mis dans la tête qui était la définition de la force, de la masculinité, de la virilité, a tellement rien à voir. Au lieu de péter la gueule à quelqu'un dans un bar, reste face à quelqu'un qui pleure sans parler, ça a envie que tu fermes ta gueule. Qui l'a envie que tu fermes ta gueule, peu importe. Ça, c'est de la force. Et voilà, donc mon frère m'avait enseigné ça et ça m'a frappé parce que c'était la deuxième fois que j'avais une énorme peine d'amour. Et la première fois, j'étais tout jeune, j'avais, j'irais 20 ans. Et je me souviens d'avoir été donc à la fois triste et choqué par ma propre tristesse. De m'être dit, genre, mais c'est pas ça une peine d'amour. C'est parce que je l'ai vu 1000 fois dans des films et dans des séries. Une peine d'amour, c'est pas te demander quand tu vas avoir la capacité de manger, te demander quand la peur de t'évanouir va être plus grande que la peur de vomir. C'est pas te dire je ne redormirai plus une nuit complète avant 6 mois, 1 an. C'est pas... Non, c'est toi qui es un peu triste, tes amis débarquent, tu manges de la glace, tu regardes un film, tu fais une bataille d'oreiller, I guess. Tu vas dans un bar et tu trouves quelqu'un de 6 fois plus intéressant ou ton collègue ou ta collègue au travail que tu n'avais jamais vu sous cet angle était en fait une personne merveilleuse all along. Non, c'est pas ça. C'est rentrer dans une pièce sombre où tout ce qu'il y a, c'est de la souffrance. Et plus tu la refuses, plus tu n'as que 2 options. Que ça dure le plus longtemps que tu pourrais imaginer, ou que tu es en train, à crédit, d'accepter de payer plus tard, ou pire, ne pas gérer ta propre souffrance, comme ça, dans ta prochaine relation, tu fais payer les autres pour les choses que tu n'as pas réglées avant. Et c'est très choquant de réaliser ça, peu importe à l'âge auquel tu le réalises. Et tout ça est une énorme parenthèse, en fait, pour dire que, donc, au début de l'été, moi, fin de saison, c'était une magnifique saison. J'ai appris énormément. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont patients avec moi, qui, qui cherchent à me faire évoluer, qui répondent à mes questions, qui sont à l'écoute. Et peu importe le métier que tu fais, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui choisiraient de faire un métier qu'ils aiment moins avec des collègues qu'ils adorent plutôt que l'inverse. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux. Je dis chance, je ne considère pas que c'est de la chance. Je considère que j'ai su saisir des opportunités en travaillant. Et le fait que les opportunités se soient présentées, ça, c'est de la chance. Et moi, je suis donc hyper fatigué. Vous le savez, mon épouse est bipolaire. Ça a été d'une violence. On a fait un épisode pour parler de comment vivait le confinement. Depuis, ça a été 2 fois pire, 5 fois pire, 100 fois pire, j'en sais rien. Je lui ai demandé à l'accepter. On va faire probablement un nouvel épisode sur elle, sur comment elle a vécu la suite. Et donc, en gros, ça a été hyper difficile. Et je suis arrivé à un état de fatigue, d'épuisement, de charge mentale, de charge émotionnelle, que j'avais absolument jamais vécu. J'étais plus bas que je n'ai jamais été. Et comme tout le monde, je crois, dans ces moments-là, la seule chose qui fait en sorte que ça puisse éventuellement aller mieux, c'est parce que tu as un chouette entourage. Moi, c'est littéralement mon père qui est venu sauver la situation. Mon père qui est un genre de Clint Eastwood de 68 ans que tu pourrais imaginer complètement fermé d'esprit, à qui j'ai pu dire « j'ai besoin d'aide, le problème c'est que je veux pas que tu écoutes ta propre expérience quand tu t'occupes de mon enfant, je veux que tu fasses ce que moi je te dis, peu importe ce que toi tu penses. » Et j'ai une bonne relation avec mes parents, j'ai une enfance heureuse et tout. C'est super violent de dire à ton père « oublie tout ce que tu as fait dans l'éducation, je m'en bats les couilles, je veux que tu fasses ça, ça et ça et ça. » Et j'ai trouvé ça tellement grand, humain, beau de sa part de faire « d'accord ». Et juste ça, c'est, si vous avez déjà connu quelqu'un chez qui vous êtes venu déposer comme si vous étiez Atlas, le poids du monde qui était sur vos trapèzes, dans sa cour, puis qui non seulement il dit « je veux bien te dépanner », mais qui dit « prends le temps de te reposer, je m'occupe de tout ». Il n'y a aucun moment dans ta vie où ton corps se transforme autant en beurre qui fond au soleil qu'en entendant les mots « je vais faire tout ce qu'il faut pour toi, va te reposer ». Et c'est la chance que j'ai eue. Et pendant tout un temps, je me disais « mais... oui, ok, t'as un job que t'aimes, t'as une femme que t'aimes, tu vis dans un endroit que t'aimes, t'as un enfant que t'adores, et tu trouves ça difficile, mais tu crois que t'es le seul? Tes grands-parents en ont eu 7, les autres en ont eu 1000, la planète en a eu des dizaines de milliards. T'as pas le droit, toi, en ayant un seul de ces spécimens enfants que tu désirais, que tu désires toujours et que t'aimes, de te plaindre. Tu dois fermer ta gueule et souffrir en silence. Parce que c'est un peu ce qu'on te montre. Il y a énormément d'exemples de gens qui disent « ah, mais c'est difficile avec mon enfant ». Et il y a une façon dont le reste de la population va te regarder parce que peut-être ces personnes-là, on leur a fait un déni de souffrance, qui, elles, sont passées à travers sans avoir d'aide, qui te regardent en disant comme « oui, moi j'en ai eu 3 ». Je m'en bats les couilles. Ce que tu es en train de me dire, c'est ma souffrance n'est pas légitime et donc tu nuis plutôt que tu aides. Je donne un exemple qui a l'air con à la base. Au Québec, en 2019, le 31 octobre, donc pour Halloween, où les enfants devaient passer Halloween, il y avait, je ne sais pas si c'est une alerte météo particulière, ce qu'il annonçait, mais on savait que c'était pas bien. Et on se dit, c'est peut-être pas génial d'envoyer tous les enfants dans les rues demander des bonbons, donc on va reporter Halloween. Est une série de gens fragiles qui ont trouvé ça scandaleux qu'on protège les enfants en disant « moi, quand j'étais jeune, il y avait ci, moi, quand j'étais jeune, il y avait ça. » Tu fais « oui, mais normalement, ce que tu es supposé de vouloir avec la génération suivante, c'est qu'elle ait un meilleur parcours que toi, parce que si toutes les générations avaient pensé comme toi, virgule, trou du cul, deuxième virgule, tu as encore une espérance de vie de 35 ans. Il faudrait que tu tues ta sœur pour manger son foie pour pouvoir survivre à l'hiver. Le point général de l'humanité, c'est tenter d'envoyer la génération suivante dans une meilleure condition que toi. Et donc oui, si nous, on est à un stade où on peut faire en sorte que les enfants passent Halloween et aient sonné de porte en porte sous une chouette météo plutôt qu'en sauvant des grêlons dans la gueule ou whatever the fuck ils annonçaient à la météo ce moment-là, pourquoi est-ce que tu te sens obligé de parler de toi à ce moment? Tu voudrais quoi? Que les gens souffrent comme toi t'as souffert? Tu voudrais qu'ils souffrent plus? Tu voudrais qu'ils souffrent égal? Puis toi, avoir l'impression d'être valorisé parce que tu ne t'es pas plaint? Tu es vraiment en compétition avec un enfant de 8 ans qui veut manger des bonbons? Ça? À quel point t'es une merde? Et si tu penses comme ça, ben on s'en fout de ton avis. Moi, je ne suis pas les conseils en natation de quelqu'un qui s'est noyé 11 fois. Déjà parce que c'est louche de se noyer 11 fois. Et je me rends compte que je m'emballe. Et donc, dans ce moment-là, je vais toujours me calmer parce que je sais rien à rien. Ça fait un mois et demi que je n'ai pas parlé dans ce format-là que j'adore. Et d'ailleurs, les statistiques ont continué d'augmenter. Et je suis tellement touché. Je vous remercie. J'ai vu... ça va être une mini-parenthèse, ça. Mais en France, ils ont sorti les premières statistiques pour les podcasts. Et si j'étais repris dans les statistiques, je vois que je serais plus ou moins en milieu de peloton avec un truc que je fais tout seul chez moi à parler en n'ayant aucun concept. C'est pas genre, tous les jours, on parle d'un film, mais sous l'angle de... Non, je fais juste parler de ce que je trouve intéressant et d'avoir autant de gens, ben vous en fait, qui m'écoutez, qui réagissez, ça me touche. J'ai reçu tellement de vos messages en me disant « Pourquoi est-ce que tu n'en fais plus? » Mais je n'étais pas en état de répondre et vous avez été hyper respectueux, hyper gentils et voilà. Donc j'apprécie beaucoup puis je suis tellement content de pouvoir le refaire et je me suis arrangé pour qu'à l'automne, je puisse refaire au moins 3 épisodes par semaine. Donc, comme ça, vous savez déjà. Et pour revenir à ce truc-là de déni de souffrance, à chaque fois que j'entends des gens dire « Ouais, moi j'en ai eu 4 enfants. » Fait « Ah oui, moi quand j'étais jeune, on n'avait pas l'aide de nos parents comme vous. » Fait « En quoi c'est pas un objet de réjouissance? Pourquoi est-ce que tu dois nier la souffrance des autres? Par quoi? Aigreur? Frustration? Toi, t'as pas eu toutes les ressources que tu voulais? Ou parce que toi, ta valorisation, ça a été de ne pas demander d'aide? Breaking fucking news! Ne pas demander d'aide ne fait pas toi de quelqu'un de fort. Ça fait quelqu'un de si t'as, attention, nuance évidemment comme dans n'importe quoi. Si t'as accès à des ressources que les gens te proposent de l'aide et que tu refuses parce que tu veux montrer que toi t'es capable, t'es pas fort. T'es faible. Demander de l'aide est beaucoup plus difficile que dire non, non, je m'en occupe moi-même. Et ça, c'est mon ex qui m'avait dit ça un jour et ça m'a marqué, comme beaucoup de choses qu'elle m'a dites, parce que c'est quelqu'un de puissamment intelligent. Elle m'a dit, Dan, il y a plein de gens autour de toi qui font que ça, te proposer de l'aide. Et à chaque fois que tu dis non, ce que tu leur dis, c'est la relation qu'on pense avoir, on ne l'a pas. Je paraphrase évidemment là. Elle dit, tu les rejettes, tu les renvoies plus loin, ils disent, je crois qu'on est assez intime pour que je puisse t'aider. Puis toi, tu fais, on est plutôt des vagues connaissances. Elle dit, il faut être généreux pour accepter de l'aide. Et si tu trouves ça plus facile aider que de faire aider, c'est que tu aimes plus les autres que toi-même. Et je sais pas ce qui est de elle, de ce qui est de tous les psys à qui j'en ai parlé après, je mélange tout, mais bref, mon message, c'est pour dire, j'adore ce show. Je suis content de le faire, je suis content de le refaire. Merci d'avoir été patient. Merci de m'avoir envoyé plein de messages pour me demander comment j'allais. La réponse, c'est j'allais pas bien du tout. Est-ce que c'était grave? Non. C'était de la souffrance ordinaire. Puis ce mois et demi-là m'aura appris que c'est pas parce que la souffrance est ordinaire qu'elle est banale. Il faut avoir l'humilité, la générosité d'accepter de l'aide, d'en demander. Voilà. J'espère que ce que je dis pour éventuellement aider une personne qui va écouter et qui va dire comme « Ah, fuck. Ah, c'est vrai. » Des fois, c'est juste quelqu'un qui vient faire ta vaisselle Puis après ça, quand tu te poses le soir dans ton canapé, tu regardes la télé, puis que tout est propre chez toi, tu te sens mieux. Puis comme tu te sens mieux, tu dors mieux. Comme tu dors mieux, le lendemain, tu te sens mieux. Puis comme tu te sens mieux, toi, tu peux peut-être aider quelqu'un d'autre. Soit la vie est belle et c'est chouette de partager les bons moments, soit la vie, c'est de la merde. Puis c'est quand même génial de se sentir moins seul. Donc voilà, j'essaie d'être le plus sincère possible. J'espère que j'ai pas sonné comme une espèce de prédicateur qui a la vérité, la science infuse, parce que putain, plus j'y vive, je me rends compte que c'est vraiment pas le cas. Donc merci à tous les gens de mon entourage et tous les gens qui font partie de mon entourage, pas parce qu'on se connaît, mais parce qu'on partage des conversations, des échanges ou même juste des valeurs. Donc voilà, j'espère que c'est un numéro qui permettra de relancer d'autres numéros parce que il s'est passé 2-3 trucs dans les derniers mois. Il y a quelques bons sujets pour les prochains podcasts. Bisous sur toutes vos vies. Et j'ai plus rien à dire. OK, bye bye.